sage. Je voulais prendre de la cendre parce qu'on en a en ce moment dans notre cheminée et un sac de jute. Alors la cendre, j'avais pas de sac de jute dans ma cave, en tous les cas ils étaient trop petits. Alors je voudrais vous parler ce matin du sac et de la cendre. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous?
Oui. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Job.
Job, oui. Alors effectivement, c'est une expression qu'on trouve dès la Genèse. Jacob déchire son vêtement, il se met de la cendre sur la tête, il se recouvre de cendre lorsqu'il porte le deuil de son fils qu'il croit avoir perdu, Joseph qu'il croyait mort. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on faisait pour exprimer un deuil, mais c'est aussi quelque chose qu'on pratiquait pour exprimer une profonde repentance, un profond regret. Donc ça consistait à se revêtir de ce vêtement rugueux, vêtement de deuil, un tissu pauvre, se couvrir la tête de cendre pour apparaître en public. Alors, il était question de montrer à l'extérieur de l'humiliation, regretter profondément quelque chose, exprimer sa conscience du péché, réaliser que l'on avait mal agi, manifester son désir d'être amendé, d'être pardonné, reconnaître qu'on avait mal agi envers Dieu, reconnaître aussi qu'on était vulnérable, attitude de celui qui décidait de ne plus se cacher aux yeux de Dieu, et on apparaissait publiquement avec ce sac rugueux et cette cendre. Donc il y avait autant une disposition extérieure qu'intérieure du cœur. C'est un symbole d'humilité aussi. Alors, l'homme naturel, hein, aussi bien du temps de Jacob jusqu'à nous, ben, il n'aime pas trop le sac et la cendre. On a des exemples dans l'Écriture. Alors, il y avait un roi, c'était le roi de Perse. Alors, c'était l'époux d'Esther. Alors, lui refusait que les gens arrivent au pied de lui en portant le sac et la cendre. Il refusait qu'on entre à la porte du roi vêtu ainsi. Dans le livre d'Ésaïe aussi, le prophète appelle à la repentance quand toute la ville a été détruite, sauf Jérusalem, le cœur. Et le peuple, au lieu de ça, ben, ils font la fête, ils estiment que c'est grâce à eux qu'ils ont épargné l'ensemble de la ville. Et ils pensaient, le peuple, que c'était juste grâce à leur force hein, et leur propre armée qu'ils avaient sauvé la ville de Jérusalem. Et du coup, quand Ésaïe appelle à la repentance, il dit « Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête, à vous cindre le sac. Et voici, la gaieté et la joie, on égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Le précepte « mangeons et buvons » n'avait pas sa place avec l'humiliation, l'humilité. On faisait fi de tout ça. Déjà, à l'époque, il était difficile de se remettre en question et de reconnaître ses torts. Alors, à contrario, certains rois savaient qu'à travers la repentance, ils pouvaient aller à la rencontre de Dieu et reconnaître sa seigneurie. Et il savait qu'à la clé, il y avait le pardon. Il y a l'exemple du roi de Ninive qui publie un décret demandant à tout le peuple de se revêtir du sac, de crier à Dieu, de se détourner de leur mauvaise voie. Et on sait, en lisant plus loin dans le livre de Jonas, que Dieu pardonnera et épargnera le peuple. Un autre roi, le roi David, lorsqu'il reconnaît avoir tué Uri et pris sa femme, tout le monde, je pense, connaît cet épisode, le roi David se revêt aussi d'un sac, il dort à même la terre pendant toute une nuit. Alors, vous l'aurez compris, il est question de repentance ce matin. Et c'est précisément le chemin de repentance de David, relaté dans le psaume 51, qu'on va parcourir ensemble. C'est un chemin progressif qui va de la supplication au fait de se mettre à genoux et à la louange d'être pardonné. Alors, il faut s'imaginer David qui a conscience d'avoir tué Uri. Il a quand même piqué sa femme, il a voulu masquer la chose. Et quand il prend conscience de tout ça, il arrive devant Dieu et il lui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, dit-il, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David continue le psaume 51.
Le verset 6. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges. Alors on a dès le début affaire à un homme qui assume. David, il assume pleinement sa responsabilité, il ne remet pas la faute sur Bathsheba, il est rempli d'authenticité, il reconnaît son péché, sa faute, son manquement, et il implore la grâce et pitié de moi. Il sait que malgré son indignité, il n'est pas exclu de l'alliance. Il ne cherche pas à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il a un sentiment de responsabilité personnelle, il dit « mon iniquité », il parle de « mes iniquités »,« mon péché devant moi ». Au-delà du meurtre et de l'adultère qu'il a commis, David, il prend conscience qu'il s'est d'abord détourné de Dieu, avant toute chose. Le premier offensé, c'est Dieu lui-même. Le « contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». La repentance commence par celle à l'égard de Dieu. « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux », dira David. Lors du meurtre d'Uri, précédemment, vous pourrez le relire, David, au début, il cherche à couvrir ses fautes. Il plante, il n'assume pas. Et puis, au bout d'un moment, quand le prophète Nathan vient le voir, voilà, il est touché profondément et il se rend compte qu'il s'est séparé de Dieu en agissant ainsi. Et au lieu de couvrir sa faute, il se dit « Mais comment est-ce que j'ai pu traiter Dieu ainsi ?» Et là, il y a un virage à 180 degrés. Et quel chemin parcouru entre les deux passages. Tout son être souffre. Il parle de lui-même en disant qu'il a un cœur brisé, un esprit brisé. Sa chair souffre. Et David prend conscience de qu'il a brisé quelque chose qui devait être droit, il a inversé le bien et le mal, et qu'ainsi il s'est rendu indigne de la présence de Dieu et qu'il est séparé. Et il sait aussi que Dieu seul peut effacer les transgressions, enlever les souillures et rétablir la communication. David connaît son Dieu. Et on relève dans le psaume des attributs de Dieu qu'on connaît tous. Oui, David le sait, et on le sait aussi que Dieu est juste. « Tu seras juste dans ta sentence, dit David. » Il sait que les actes de Dieu sont motivés par la bonté, la miséricorde, c'est un mot qui apparaît deux fois dans le psaume. David sait que Dieu restaurera son corps, il restaurera son âme. David sait aussi qu'il a en face de lui le Dieu créateur. Il dit à un moment « crée en moi un cœur pur ». Alors c'est le mot « créer » dans la parole, on le retrouve qu'avec Dieu comme sujet. C'est le créer qui signifie façonner, forme, donne la vie. Et c'est quelque chose que seul Dieu peut accomplir. Dieu seul peut créer comme un acte immédiat dans la Genèse, mais aussi par un long processus comme avec David. Dieu seul peut créer et donner la vie. David s'était éloigné de la voie prévue par Dieu pour s'enfoncer dans l'obscurité. Et il sait que Dieu seul peut le ramener à la lumière, à la vérité. Il sait que, oui, il veut que la vérité soit au fond du cœur de David. Et c'est en ce sens qu'il répond à la prière de David, parce que David se présente à lui dans la vérité, nu avec le sac et la cendre, pauvre. David sait aussi qu'il peut demander, comme nous on le sait, énormément de choses à Dieu, et que Dieu va répondre. Il lui demande un miracle. Il lui dit « Efface mes péchés ». Alors c'est le même terme qu'on a pour quand on effaçait des choses d'un livre. « Lave », qui était un terme de blanchisserie, quand les femmes lavaient les vêtements. On lavait les vêtements souillés, c'est « lave ». « Lave-moi, purifie-moi », c'est le même terme qui est employé quand les gens avaient la lèpre. On purifiait, on lavait, on effaçait. Et quand la souillure est enlevée, la communion avec Dieu, elle est rétablie. « Je serai pur ». David s'approprie la promesse. L'image aussi « plus blanc que neige » signifie que la restauration, elle ne va pas se faire en demi-mesure, en demi-teinte, que Dieu il va restaurer complètement. Il va restaurer le cœur, il va restaurer l'esprit. David le mentionne deux fois. C'est un blanchiment total. Et David sait qu'il peut réclamer aussi à Dieu à nouveau un esprit bien disposé. Il sait combien l'homme est faible et il demande une restauration, une aide pour avancer dans la vérité. Il réclame la sagesse pour vivre dans la droiture. David demande un miracle et il l'obtient parce qu'il s'est présenté à Dieu en vérité. Alors c'est assez étonnant de voir aussi combien David a conscience que son péché l'a détruit lui, mais aussi a eu des conséquences sur son peuple. Et on verra après que, plus tard dans le passage, il a conscience de ça et il demande aussi un pardon, une réconciliation, parce qu'il sait que ça va rejaillir sur son peuple. Comme nous, quand on agit mal, des fois ça a des conséquences sur nous, et des fois ça a aussi des conséquences autour de nous. Et David demande une restauration pour son peuple aussi. David sera exaucé, il ne restera pas contrit, mais il aspire à retrouver la joie, il va la retrouver, il aspire à avoir un esprit enthousiaste et il va le retrouver, Dieu va lui redonner, va le renouveler et il va devenir à nouveau témoin de l'homme repenti, témoin vivant de la grâce et immense de Dieu et il entre dans la louange, dans la paix et dans la joie. « Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. » Alors le retour à la joie était physiquement marqué par l'enlèvement du sac. On le retrouve à d'autres passages dans le psaume 30, mais il y en a ailleurs. Physiquement, on se nettoyait de la cendre et on enlevait le sac. « Tu as délié mon sac, tu as changé mes lamentations en allégresse. Restauration extérieure et restauration intérieure. » On enlève le sac, On change de vêtements, la transformation, elle est totale. On le retrouve aussi chez l'apôtre Paul, hein, qui nous dit dans la lettre aux Éphésiens, que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et en vraie sainteté. Alors tout cela, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu tout un chemin où un processus, où il y a eu un point de départ qui a été de reconnaître ses torts, de se mettre devant Dieu en vérité et d'accepter le pardon. Ça a été tout un chemin pour retrouver la joie. Et en discutant un jour avec une amie, elle me disait que ses enfants savaient, elle était convaincue que ses enfants savaient que Dieu les aimait, mais elle se demandait s'il ne leur manquait pas la repentance pour cheminer plus loin. Alors la repentance, c'est un chemin de progrès qui n'a rien à voir avec la culpabilité. Dès la Genèse, hein, dès Adam et Ève, on remarque que la tendance humaine, c'est d'accuser l'autre ou la société. Rien à voir avec l'attitude de David dans ce psaume. Et ça m'a fait réfléchir, et c'est vrai que le contexte actuel tend à faire de nous les victimes. On est baigné, hein, dans cette culture de « c'est pas ma faute, j'y peux rien ». J'ai rien fait, c'est à cause de X, Y, Z. Mais en parcourant ce qu'on vient de parcourir ce matin, on se rend compte que c'est pas nouveau tout ça. Parce que c'est dur de reconnaître sa culpabilité, reconnaître ses torts. Et je me rends compte dans les relations familiales aussi que ça fait le terreau d'amertume quand chacun reste sur ses positions et n'accepte pas de reconnaître sa responsabilité dans un conflit. Non, c'est pas ma faute. Il nous faut retrouver et trouver le juste sens des responsabilités, apprendre à reconnaître nos torts pour avancer, sans pour autant tomber dans l'excès inverse de la culpabilité. Alors, Stanley Auerbach, qui est un théologien nord-américain, dit qu'il nous faut apprendre à être pécheur et à savoir reconnaître notre part de responsabilité, notre péché, de la bonne manière, ni trop, ni trop peu. Ni trop, ni trop peu. Car contrairement à certains rois de l'Antiquité, eh bien, dont on ne pouvait pas s'approcher avec le sac et la cendre, contrairement à certains rois de l'Antiquité, notre Dieu, en Jésus, nous avons l'assurance de pouvoir nous approcher de lui. Et il a plaisir que nous nous approchions de lui dans la repentance. Et il ne nous laisse pas ainsi. Il promet de délier notre sac et de nous ceindre de joie. Et on peut lire cette espérance aussi dans la lettre de Jean. Voici le message que nous avons entendu de Jésus et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà la promesse que Dieu nous donne, le discernement, quand emporter le sac et la cendre, quand fléchir le genou, et quand délier le sac et revêtir la joie. Amen.